Bonjour, bienvenue sur le réseau FM Plus 103.1 à Nîmes et sur le 91 FM à Montpellier. Tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 9h, retrouvez Itinéraire Santé, une émission pour se sentir bien dans son corps et avec soi-même, à écouter aussi en podcast sur fmplus.org. Bouger les yeux pour guérir l'esprit. C'est le pari de l'EMDR, méthode fondée par la psychologue américaine Francine Shapiro. Les résultats sont étonnants, à condition d'utiliser cette technique à bon escient, évidemment. En France, l'EMDR est reconnu par l'INSERM et par la Haute Autorité de la Santé. Pour nous en parler, je reçois en ce mois de janvier 2015 Brigitte Naudon, thérapeute à Montpellier. Bonjour.
Bonjour Annick.
Brigitte Naudon, voulez-vous nous présenter en quoi consiste votre pratique de thérapeute ainsi que vos différents domaines d'application ?
Alors, je suis thérapeute EMDR en particulier, mais j'utilise beaucoup d'autres techniques car une seule technique ne suffit pas pour faire face à toutes les demandes. Les domaines d'application sont très variés. Je travaille avec des personnes de 10 ans à 90 ans en moyenne. Et j'utilise les techniques en fonction du cas, en fonction de la demande de la personne et en fonction du travail qu'elle a déjà fait sur elle. Donc j'adapte mon travail au cas par cas.
D'accord. Vous pouvez nous donner quelques exemples des techniques que vous pratiquez ?
Alors j'utilise la sophroanalyse, l'EMDR. J'utilise aussi une analyse psychosomatique à base d'hypnose et des questionnements pour travailler avec l'inconscient des personnes pour faire remonter des informations qui causent problème mais qui sont dans l'inconscient.
Eh oui. Alors ces pratiques font partie des médecines dites réactives, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je ne travaille pas que sur l'esprit, je travaille aussi sur le corps et sur les émotions.
Alors selon le problème, voilà, c'est l'une ou l'autre ou plusieurs de ces méthodes qui seront utilisées pendant les séances.
Oui, généralement beaucoup de personnes demandent à pratiquer l'EMDR, mais je leur explique que ce n'est pas qu'une méthode, ce n'est pas qu'une technique, c'est une thérapie à part entière. Nous avons une formation très poussée aujourd'hui et c'est vraiment une technique, une méthode qui permet d'utiliser beaucoup du potentiel de l'être humain. Ça permet de réactiver tout le potentiel en fait qu'il y a au niveau cérébral pour traiter les informations, pour digérer, pour faire un travail d'archivage que le cerveau n'a pas été capable de faire à cause souvent d'un traumatisme, d'un psychotraumatisme.
Alors nous allons décortiquer tout ça pendant ces deux émissions de janvier. Est-ce que ça demande alors combien d'heures d'études demande cette formation de MDR ?
Alors la formation de base se fait en plusieurs week-ends à Paris. Mais le plus important c'est tout le travail que nous avons à faire à côté, c'est-à-dire les lectures et l'apprentissage, plus les heures de supervision. Et c'est aussi une thérapie que l'on a avec un diplôme qui est valable que 5 ans. Et donc, nous sommes obligés de monter à Paris en formation continue, enfin à Paris principalement. Mais c'est très, très intéressant d'apprendre toujours. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé en 98, à l'époque, on n'avait absolument pas d'explication au niveau du cerveau. Et c'est qu'après, avec l'apport des informations, des outils, IRM, scanner, etc., qu'on a compris en fait à peu près, qu'on commence à comprendre le fonctionnement du cerveau pendant le psychotraumatisme et donc pendant le traitement EMDR.
Mmh. Alors pour faire cette formation, il faut être obligatoirement thérapeute, hein ?
Alors il faut être psychologue clinicien, psychiatre ou médecin.
Mmh. Que signifient donc ces quatre lettres E, M, D et R ?
Alors, je ne vous le dirai pas en anglais à cause de l'accent, mais en français, c'est donc mouvement oculaire, désensibilisation et retraitement. Au début, il n'y avait que les trois premières lettres, EMD, donc mouvement oculaire et désensibilisation. Mais très rapidement, Francine s'est rendue compte de l'importance et de l'impact des pensées positives et du potentiel positif qu'il y avait. Et donc, elle a intégré le retraitement, le R, donc ensuite.
D'accord. Alors, c'est donc Francine Shapiro qui est à l'initiative de cette méthode.
Oui, elle a découvert ça en fait. C'était une dame qui était dans la littérature, hein, donc elle avait une carrière devant elle quand on lui a découvert un cancer. Et quand elle a été guéri, les médecins lui ont dit « on ne sait pas, ça risque de revenir ». Donc du coup, comme elle n'avait plus du tout envie d'être malade, elle s'est mise à apprendre beaucoup de choses. Et elle s'est rendue compte un jour, tout à fait par hasard, alors qu'elle faisait des études de psychologie, qu'en se promenant dans un parc, arrivée au bout, elle allait beaucoup mieux. Et elle était apaisée par rapport à des questions, à des angoisses qu'elle avait au début de sa promenade. Et donc à partir de là, elle a réfléchi, elle s'est rendue compte pendant sa promenade, donc elle regardait à droite et à gauche des arbres, et qu'il y avait un retraitement de l'information qui s'était fait tout seul. Donc à partir de là, elle a demandé à ses collègues de faire l'exercice avec elle, et à partir de là, comme ça a marché, elle a essayé avec des patients, et elle a écrit une thèse là-dessus, et c'est comme ça que MDR est partie.
D'accord, c'était en quelle année ?
Alors, au départ, c'était en 1984, mais très rapidement, elle a réalisé aussi que ça marchait très bien avec les personnes qui étaient aveugles, donc atteintes de cécité. Et donc, à partir de là, elle a mis en place ce qu'on appelle des stimulations bilatérales alternées. Parce que nous avons eu la preuve, en fait, que ce qui importe, c'est la bilatéralité du cerveau, et non que les mouvements oculaires. Les mouvements oculaires, on a compris à la base que c'était le retraitement de l'information qui se faisait pendant les rêves, mais pendant les rêves, pendant qu'on dort, on a les yeux fermés, donc c'est pour ça qu'il y a les mouvements oculaires. Mais en fait, ça marche très très bien avec les stimulations bilatérales alternées sur les genoux, sur les pieds, ou même sur les épaules pour certains, ou même avec des sons au niveau auditif. Voilà.
D'accord. Alors, cette pratique est arrivée en France il y a que quelques années. Hein. Là, bon, on en parle de plus en plus, mais c'est encore récent.
Alors, elle a été amenée en France en 1994 par le psychiatre, le docteur François Bonnel, qui avait vécu un traumatisme à la suite de la mort accidentelle de son fils. Et donc, il est parti aux États-Unis rencontrer Francine, dont il avait entendu parler. Et il a été tellement émerveillé, estomaqué de la rapidité avec laquelle il a pu faire le deuil de son deuil par rapport à son fils, qu'il lui a demandé la permission donc d'introduire la technique en France. Ce qu'il a fait, donc à la base j'ai été formée par des Américains et lui-même. Et ensuite, nous avons été reconnus et connus grâce à David Savin-Schreiber, qui a écrit notamment le livre Guérir et qui a fait beaucoup d'émissions radio, télévision, etc. Et c'est à partir de là que le MDR a été enfin un peu reconnu.
Itinéraire Santé, c'est tous les premiers mercredis du mois à 9h sur le réseau FM+. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'EMDR en compagnie de Brigitte Naudon, thérapeute à Montpellier. Alors, Brigitte, cette méthode s'inscrit dans les thérapies comportementales et cognitives. Donc, comme je disais en début d'émission, cette méthode est reconnue par l'INSERM et la Haute Autorité de la Santé, l'HAS. C'est quand même quelque chose, enfin, c'est quand même important.
Oui, il y a eu énormément d'études qui ont été faites. Et à ce propos, dans je ne sais plus combien de pourcentage d'études, il y a eu 80% de réussite au bout de 4 ou 5 séances. Et David Servan-Schreiber nous disait que en fait, c'était le même pourcentage de guérison, entre guillemets, que pour les pneumonies. Donc c'est aussi efficace entre guillemets que les antibiotiques. Et lui, il pressentait que d'ici une trentaine d'années, donc ça c'était en 2003, donc on a encore du chemin à faire, mais d'ici une trentaine d'années, le MDR serait vraiment reconnu par son efficacité.
Alors bon, cette méthode, comme je l'ai dit, s'inscrit dans les thérapies comportementales et cognitives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que ça veut dire?
Alors, c'est pas exactement une TCC. Donc, une TCC, c'est une thérapie cognitive et comportementale où on met la personne en confrontation avec sa problématique, c'est-à-dire si elle a une phobie des araignées, on la confronte à une araignée, etc. Mais c'est dans le sens que c'est cognitif et comportemental, dans le sens où les comportements sont modifiés de toute façon après un traumatisme, et au niveau cognitif parce que les pensées sont désagréables, négatives, les personnes se culpabilisent ou sont tout le temps en train de ressasser. En fait, si vous voulez, nous avons jusqu'à 70 000 pensées par jour. Et dans le cas d'un traumatisme, au niveau cognitif, la raison n'est plus là. La personne est tout le temps dans son cerveau émotionnel à se poser des questions, à tourner en rond, en fait, par rapport à ce qui s'est passé.
Et vous pouvez nous en dire plus sur ce processus neuropsychologique complexe?
Alors en fait, dans le cerveau, nous avons plusieurs glandes. Il faut que vous sachiez que nous avons entre 1000 et 2000 stimuli qui rentrent dans le cerveau par les cinq sens, donc par les yeux, le nez, la bouche, les oreilles et la peau, à chaque seconde. 1000 à 2000 stimuli. Ce qui fait qu'il y a des milliards de connexions qui se font et qui crée à partir de là les 70 000 pensées. Notre cerveau est à la base formaté pour la survie. C'est-à-dire qu'il y a deux glandes très importantes qui s'appellent les amygdales cérébrales et l'hippocampe. L'hippocampe joue un rôle important dans la mémoire immédiate. Et les amygdales, donc, sont les glandes qui sont chargées de balancer les hormones, notamment les hormones de peur, qui réagissent à la peur, c'est-à-dire l'adrénaline, noradrénaline et le cortisol. Quand une personne a peur, elle est dans son cerveau de survie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de raisonner. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de rouler. Vous avez un enfant qui ne s'arrête pas de traverser la route devant vous. À ce moment-là, vous allez avoir peur. Donc, votre amygdale va balancer des hormones qui vont vous faire freiner. Et à ce moment-là, le néocortex, dont le cerveau intelligent, logique, qui réfléchit, il est complètement débranché. Une fois que vous êtes passé ou que la maman a récupéré le gamin par la main, à ce moment-là, votre amygdale donc, arrête le processus de peur et l'hippocampe envoie l'information au néocortex comme quoi on peut à nouveau raisonner. Et à ce moment-là, vous pouvez vous dire « Oh là là, elle n'était pas prudente, est-ce que j'étais bien assurée ? Tu te rends compte que tu l'avais écrasée, etc. » Donc c'est dans ce sens-là que les hormones ont un rôle important.
Alors, à qui s'adresse le MDR ?
Alors, le MDR s'adresse à tous, à tous. Ma pratique, c'est plutôt des adolescents, 12, 13 ans jusqu'à 90 ans, mais il m'arrive de recevoir des enfants, j'ai déjà eu des bébés. Donc, ça s'adresse absolument à tout le monde. Après, il y a beaucoup de symptômes différents qui font venir les personnes en thérapie.
Vous pouvez nous donner des exemples pour lesquels on peut venir vous voir, hein?
Alors, à la base, les symptômes sont des angoisses, des flashbacks pour un traumatisme, un psychotraumatisme, des insomnies, mais très souvent aussi, il y a des personnes qui ont des crises d'angoisse sans raison apparente, mais en discutant au bout de quelques temps et en faisant ce qu'on appelle l'anamnèse, on se rend compte qu'il y a un psychotraumatisme à l'origine de la crise d'angoisse ou des problèmes récurrents.
Oui, un passé, voilà. Problème de passé qui n'ont pas été résolus. En fait.
Oui, et qui n'avaient pas été identifiés parce que les médecins ne sont pas formés pour. Mmh. Et j'ai eu notamment le cas d'un monsieur qui avait des crises d'angoisse depuis un an et demi. Donc régulièrement, il allait chez son médecin généraliste qui, à un moment donné, lui a dit bah, « Écoute, j'en ai marre de te donner des médicaments, va voir cette dame, tu verras bien, peut-être qu'il y a quelque chose de psychologique là-dessus. Mmh. » Là-dessous. Et en fait, cet homme avait vécu un accident de voiture un an et demi avant. Et en deux séances, ça a été réglé. Il a pu reprendre le volant et il n'a plus du tout souffert de crise d'angoisse.
Mmh. Donc le MDR s'applique aussi bien aux grands chocs qu'aux petits traumatismes.
Tout à fait. Alors, c'est plus facile de traiter un traumatisme de type 1 ou de un petit traumatisme, entre guillemets. C'est-à-dire un traumatisme de type 1, c'est un traumatisme qui est unique. Récent ou pas, mais surtout unique et qui ne dure pas. Voilà. Alors qu'un traumatisme, par exemple un harcèlement, des maltraitances conjugales, un deuil pathologique, enfin quelque chose qui est dans la durée, ça peut être beaucoup plus long. Une éducation à la dure, etc. Là, on appelle ça un traumatisme développemental et ça peut être beaucoup plus long.
Mmh. Alors cette méthode voit s'ouvrir sans cesse de nouvelles perspectives. Telle, justement, vous ne l'avez pas cité, mais où je ne l'ai pas entendu, la dépression, sans cause vraiment traumatique, ou la schizophrénie à ses débuts.
Tout à fait à ses débuts. Alors, personnellement, je ne prends pas de cas psychiatrique. Je prends des personnes, enfin, je reçois des personnes qui me sont envoyées. Voilà, c'est un des troubles, c'est aussi la dépression. Ça peut être un des cas, enfin, un des symptômes. Après, il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent me voir donc, suite à des accidents de voiture, mais suite aussi à des cambriolages, suite à des incendies, suite à les inondations dernièrement. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de traumatismes qui peuvent être conséquents de quelque chose d'extérieur.
Mmh. Thank you. itinéraire santé sur le réseau FM+. Donc aujourd'hui en compagnie de Brigitte Naudon, thérapeute à Montpellier, et nous découvrons avec elle, grâce à elle, cette méthode qui commence à être enfin reconnue, le MEMDR, mais cette méthode, malgré tout, fait l'objet depuis ses débuts d'une vive polémique. Qu'en est-il, Brigitte Naudon ?
Alors, nous sommes dans un pays où la psychanalyse est maîtresse depuis très longtemps, et il était entendu que la thérapie ne pouvait se faire que par la parole. Or, aujourd'hui, avec les avancées de la technologie et des découvertes scientifiques qui ont été faites sur le fonctionnement cérébral, nous avons conscience qu'il est possible de guérir sans passer par la parole. Donc la polémique vient du fait que malgré les reconnaissances, malgré les preuves scientifiques, etc., il y a encore beaucoup de personnes qui veulent garder entre guillemets la thérapie sous le couvercle psychanalytique ou psychiatrique. Mais la psychiatrie n'a pas le même dessein entre guillemets que la psychothérapie.
Oui, bien sûr. Oui. Mais alors, si j'ai bien compris, cette méthode est quand même donc une psychothérapie à part entière. Donc, elle utilise, on va dire, le côté visuel et mouvement pratiqué par le thérapeute. Oui. Mais le patient utilise aussi les mots pour s'exprimer.
Oui, tout à fait. Tout à l'heure, je vous parlais des cognitions, donc des pensées positives ou négatives. C'est-à-dire que la technique comprend plusieurs étapes et elle utilise aussi la parole. L'avantage, c'est que les personnes ne sont pas obligées de décrire dans le détail tout ce qu'elles ont vécu. Si elles ont besoin de verbaliser, de dire les choses, bien elles le font, nous les écoutons, mais ce n'est pas obligé pour des personnes qui ont subi des violences sexuelles, par exemple. Elles auraient sûrement de la honte à expliquer certaines choses, alors que là, entre deux mouvements oculaires ou entre deux stimulations bilatérales, nous leur disons juste restez avec ça, on continue avec ça. Tant qu'il y a du matériel psychique qui est à l'intérieur du cerveau de la personne, on continue, mais elle n'est pas obligée de tout déballer.
D'accord. Donc d'où l'importance d'utiliser en fait cette méthode.
Depuis 1998 que je la pratique, et parmi toutes les techniques que j'utilise, dont l'hypnose, j'avais d'excellents résultats, mais les résultats en EMDR sont beaucoup plus probants.
D'accord. Y a-t-il des contre-indications ?
Alors, les contre-indications sont d'ordre quand il y a eu des troubles cardiaques récents, dans le cas d'état suicidaire ou au niveau des psychoses.
Et à partir de quel âge vous avez dit vous pouvez toucher un éventail assez large, mais les enfants, je pense aux bébés par exemple qui auraient été traumatisés, est-ce qu'on peut pratiquer l'EMDR ?
Alors on peut les aider. Moi personnellement, le premier âge que j'ai eu, c'était un enfant qui avait 2 ans, qui avait un problème d'attachement, donc qui n'arrivait pas à quitter sa mère à cause d'une grossesse difficile, un accouchement difficile, etc. Donc j'ai demandé à la maman de me raconter dans le détail ce qui s'était passé, comme elle l'avait fait en thérapie avec moi. Et pendant ce temps, je faisais des stimulations bilatérales alternées sur les pieds du petit garçon. Et ça l'a beaucoup aidé à lâcher, entre guillemets, sa maman, à ne plus vivre ce traumatisme. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que dans tout être humain traumatisé, traumatisé ou pas d'ailleurs, mais les personnes qui viennent en souffrance et même qui ont une soixantaine d'années, il y a toujours un enfant intérieur qui est là. Et jusqu'à maintenant, il paraissait impossible, à part pendant les thérapies primales, de guérir de traumatismes qui se sont passés soit pendant la grossesse, soit au moment de l'accouchement, soit les 3 premières années avant que le langage n'ait vraiment sa place. Or aujourd'hui, une de nos collègues a inventé, entre guillemets, un protocole spécial qui s'appelle les empreintes précoces, où nous pouvons aider la personne à se libérer de quelque chose qui s'est passé pendant. Le premier cas que j'ai eu qui m'a énormément marqué, c'est pour ça que je m'en rappelle encore 17 ans après, c'est une dame qui avait un problème, un trouble de l'attachement, et son mari me l'avait amenée parce qu'elle ne supportait pas qu'il s'en aille, elle ne supportait pas qu'il soit dehors. Elle était tout le temps en train de lui téléphoner s'il avait une demi-heure de retard, etc. Et il m'a dit, je n'en peux plus, faites quelque chose parce que... Voilà. Et donc cette dame, nous avons travaillé... plusieurs techniques, hein, de l'EMDR, nous avons fait plein de choses. Et à un moment donné, je lui ai fait faire une séance d'hypnose où, pendant la régression, elle ne pouvait plus du tout rien dire. Elle s'est mise à pleurer, à trembler, etc. Donc j'ai appelé son mari. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Je ne l'ai jamais vu pleurer comme ça. J'ai dit, écoutez, on a touché quelque chose d'important, donc on va attendre qu'elle se calme. Et une fois qu'elle a été calmée, je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez vu? Mais je lui ai dit, mais elle me dit, mais je n'ai rien vu. Je sentais simplement, j'étais malheureuse, j'étais mal. Je crois que j'étais dans le ventre de ma mère. Donc à ce moment-là, je lui ai conseillé, puisque sa maman, heureusement, était encore en vie, je lui ai conseillé d'en parler avec sa maman. Et en fait, cette dame n'avait pas eu de papa, hein, puisque c'était une mère célibataire, sa mère. Et sa mère lui a avoué après que, en fait, son père était resté avec elle jusqu'à ce qu'elle était enceinte, qu'elle soit enceinte de 8 mois. Et au 8e mois, cet homme est parti. Et cette femme a voulu se jeter par la fenêtre. Et sa voisine, voyant le monsieur partir avec sa valise, sachant les problèmes de couple qu'il y avait depuis le début de la grossesse, elle est allée chez cette dame, donc la maman de S, et elle l'a attrapée par le t-shirt, et donc elle l'a empêchée de sauter. Et si vous voulez, cette femme, en fait, à ce moment-là, elle a vécu et le rejet du père, et la, entre guillemets, la trahison, enfin l'abandon de la mère qui voulait la tuer avec elle. Et à partir du moment où elle a dépassé ça, elle s'est sentie beaucoup mieux, libérée, et elle n'a plus eu son trouble.
Brigitte Naudon, l'émission se termine. J'invite les auditeurs à rester à l'écoute pour la prochaine émission, donc qui aura lieu vendredi 21 à 9h, seconde partie, où nous rentrerons plus dans les détails avec des exemples, où vous expliquerez comment se passe une séance. Alors, je donne votre site, il s'agit d'un blog. Donc c'est http://brigittenaudon.thérapeute en un seul mot en minuscule, .blogspot.fr. L'adresse de votre cabinet, les Jardins des Guelongues, 183 rue Prairial, à Montpellier. Un téléphone 04 67 79 30 92. Les auditeurs peuvent lire « Des yeux pour guérir » de Francine Shapiro, justement l'initiatrice de cette méthode. Dans son livre best-seller, le docteur David Servan-Schreiber, dont vous avez parlé, consacre plusieurs chapitres à l'EMDR qu'il définit comme une auto-guérison des grands traumatismes. Voilà, vous pouvez les trouver en pocket. Ce livre est sorti en 2005. Aussi,
il s'appelle Guérir.
Voilà, pardon, j'avais oublié de dire le nom. Voilà, et donc...
Et le livre de Jacques Roch aussi, qui est très bien.
Voilà, une révolution thérapeutique.
Tout à fait.
Chers auditeurs, à très bientôt, et je vous invite à rester sur le réseau FM+. Au revoir, Madame Naudon.
Au revoir.